RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast tennis sur RMC à télécharger sur toutes les plateformes en mode quotidienne pendant ce Roland-Garros. Et nous sommes là pour débriefer cette journée des demi-finales du simple dame avec Sarah Pitkowski. Salut Sarah.
Salut Arnaud, salut à tous.
Encore des surprises, moins pour la première demi-finale où Mira Andreeva a disposé de Kostiuk 6-1, 6-3. Mais on va parler de la sensation qui se produit. La Polonaise Maya Rwalinska a battu Diana Schneider, la Russe, 7-6, 6-4. La Polonaise vit tout simplement un conte de fées porte d'Auteuil. Sarah, sortie des qualifications, a disputé son 9e match en 17 jours. Et elle a encore déroulé son jeu, fait de variations. Et elle a étonné tout le monde. Elle est en finale, c'est historique.
Oui, elle a étonné, mais elle a surtout embarqué tout le public parce que effectivement, peut-être que le public qui avait ses places pour les demi-finales, eh bien, n'a pas vu d'autres matchs de Rwalinska avant ce match-là, et donc peut-être surpris aussi de découvrir ce petit gabarit qui maîtrise la géométrie du court comme personne en fait. Elle joue parfaitement sur terre battue parce qu'elle sait mixer les hauteurs, elle sait mixer les trajectoires, les diagonales. Puis alors ces amortis de coup droit et de revers, ces montées à contretemps, ces volées liftées que Mary Pierce avait inventé dans le tennis féminin. C'était la première lorsqu'elle faisait une superbe accélération, mettait les deux pieds à l'intérieur du court et dès qu'elle voyait la balle monter en l'air, elle prenait les balles en volée liftée, comme on appelle ça. Et la Polonaise joue exactement comme ça, pas avec la puissance de Mary Pierce, mais avec vraiment une science du jeu. Après, ce qu'on ne sait pas, et encore ce qui se passera samedi, c'est son état émotionnel et son état physique. Je pense qu'elle non plus le sait pas. Elle n'a jamais fait une épopée comme celle-là, un tournoi comme celui-là. Donc, chaque match qu'elle joue est une découverte. Mais alors, certes, elle est strappée hein, sur les deux cuisses. Je pense que les adducteurs, les ischios, ça soit sifflé beaucoup. Mais elle a encore la lucidité vraiment pour jouer avec clairvoyance. C'est un match 7-6, 6-4, qui a été au-delà des 2h15, parce qu'il y a eu des rallyes, mais parce qu'elle ne peut pas gagner le point en deux coups de raquette, elle doit construire son point. Donc forcément, les matchs sont longs, donc on n'est pas loin, on avait dit 8 plus 5 plus 2, on doit être à plus de 15 heures de...
Alors elle avait, je crois que c'était 9 heures sur le tableau principal, plus 5 heures ouais. Passées... lors des qualifications, des trois matchs qu'elle a disputés, dont un match de 2h30 au troisième tour. Au premier tour, elle avait battu Alice Ramé, la française. Et donc là, on rajoute 2h10, comparé au 1h16 de Andreeva avant, même si là, elle a 48 heures. Elle avait joué déjà mercredi.
Exactement, elle a 48 heures pour récupérer, puisque la finale est samedi à 15h. Je pense que ça va lui faire du bien. Après, une finale, on sait hein, dans le tennis féminin que Les jeunes femmes qui sont arrivées en finale et par surprise ou en tout cas qui n'ont pas l'expérience d'une finale de Grand Chelem, on a souvent eu des joueuses qui avaient du mal à supporter le poids de cette finale et qui passaient souvent à côté de ce match-là. Donc, de ce que je vois, je n'ai pas l'impression, mais encore une fois, une finale de Grand Chelem, vous effacez tous les autres matchs avant. C'est un nouveau tournoi.
Même si elle fera face à Mira Andreeva, qui là aussi dispute sa première finale en Grand Chelem. Et on a vu Mira Andreeva, pas cette année, mais sur les années d'avant, pouvoir être un petit peu submergée par l'événement. On a le sentiment de voir une Andreeva un peu différente aussi cette année, beaucoup plus mature, même si elle a encore que 19 ans.
Oui, beaucoup plus mature. Et en tout cas, la prestation qu'elle a fait contre Kostiuk était de très belles factures parce que le toit était ouvert pour cette première demi-finale. Il y avait des bourrasques de vent. Les balles allaient dans tous les sens et elle a vraiment su garder le contrôle de l'échange, d'être collée au rebond, de mettre la sécurité qu'il fallait par rapport aux lignes et par rapport au filet. Tout en étant agressive, hein. Elle n'a pas eu un jeu attentiste. C'est-à-dire qu'elle est vraiment allée chercher aussi cette finale. Je ne pensais pas que le match irait aussi vite contre Kostiuk, qui, elle, s'est emmêlée les pieds dans le tapis. Elle a commis beaucoup, beaucoup trop de fautes, vraiment gênée par le vent. Hein. Mais Mira Andreeva, elle fait office de favorite. Hein. C'est 8e mondiale. Elle est la favorite de cette finale, même si elle n'a pas encore joué de finale de Grand Chelem.
Oui, face à Rvalinska, qui est 114e mondial, enfin qui va augmenter sa place, hein, puisque au classement virtuel WTA, on regardait, elle était un peu juste au-delà de la 20e place mondiale, la polonaise Rvalinska, 21e, voilà, elle va gagner 93 places. Sa vie a changé, sa vie a commencé à changer pour cette fantastique joueuse polonaise qui... Elle a sorti au tour d'avant, donc elle a sorti Schneider, ensuite Kalinskaya, Diane Parry au tour d'avant, Sakkari avant. Bon, quand on voit les deux derniers tours, c'était déjà des joueuses russes, on dit jamais 203. Elle peut faire dégoupiller Andreeva.
Ben, en fait, au-delà de faire dégoupiller, je pense qu'elle peut vraiment l'emmener dans sa filière de jeu et que Andreeva n'arrive pas à poser sa puissance et son jeu plus stéréotypé, qui sont faits de frappes plus stéréotypées où elle joue en cadence et elle appuie. Si elle arrive à mettre son jeu en place, elle va gêner Andreeva. Après, c'est quelle réponse la Russe va pouvoir avoir à ce jeu tactique.
Mais Sarah, Mira Andreeva, c'est pas Diana Schneider, c'est quand même au-dessus.
Oui, c'est au-dessus, bien sûr que c'est au-dessus. En fait, je suis très interrogative. Vraiment, parce que comme la Polonaise propose un jeu qui est tellement atypique, tellement peu pratiqué, qu'en fait, on ne sait pas la réaction adverse, comment elle va s'adapter, parce qu'elle pose un problème de jeu. A priori, je dirais que si on joue beaucoup plus vite que Rvalinska, elle ne peut pas avoir le temps. Et si on la tient vraiment loin derrière la ligne de fond, elle ne peut pas placer ses amortis. Elle ne peut pas venir jouer ses volets liftés. Donc, il faut vraiment la garder au fond du court. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une vitesse de jeu. Et la donnée va être aussi, est-ce qu'on joue toit ouvert ou toit fermé? Est-ce qu'on va avoir un temps sec ou on va avoir un temps humide? Donc, tout ça va rentrer en considération. Et ce qui rend, là, comme ça, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire jeudi soir, à 48 heures de la finale, je ne sais pas. Oui, sur le papier, elle est favorite.
J'ai envie de te dire, Andreeva se déplace mieux que Schneider, va plus vite. S'il y a des amortis, elle est peut-être aussi plus en capacité de les contrer, d'être plutôt dessus. On voit aussi Andreeva qui va un peu plus vers le filet aussi. Donc, pourquoi pas une Russe qui puisse taper la balle un peu plus tôt.
Oui, si elle arrive à mettre son jeu en cadence et que c'est elle qui dirige le point, oui, elle va être vraiment, c'est elle qui doit... Qui doit diriger le jeu et c'est elle qui prendra le score et les échanges à son compte. Mais la donnée que j'ai du mal à, c'est est-ce qu'elle ne va pas se frustrer trop vite? Mais je pense que Conchita Martinez, qui a déjà fait une finale ici, qui a déjà gagné Wimbledon, elle va la préparer à ça. Parce qu'en fait, Andreeva va rentrer dans une zone de frustration parce que les balles ne vont pas arriver comme d'habitude. Donc je pense qu'elle va la préparer émotionnellement et psychologiquement à rater, c'est-à-dire qu'elle fait rater. Donc il faut pas se frustrer sur le fait de rater, mais continuer à appuyer, continuer à jouer vite, continuer à être plus agressif que la Polonaise. Donc tout ça, c'est sur le papier. Mais il y a une chose, il y a une donnée qui est très importante dans le tennis féminin, c'est la tête, c'est les émotions.
Arina Sabalenka approuve.
Exactement. Et la tête fait faire des choses qui sont terribles dans le tennis, surtout dans le tennis féminin. Ça peut vous faire sortir d'un match. Donc voilà, il y a beaucoup de données, ce qui rend cette finale, même si l'affiche n'est pas celle qu'on pouvait attendre, je pense que les gens qui seront dans les tribunes, qui regarderont et qui nous écouteront pour cette finale, vont se régaler. Je suis convaincue qu'il va se passer.
Ils ont commencé déjà, Sarah, parce que là, sur la demi-finale, le central était derrière Rvalinska, parce que la fraîcheur, elle sort des qualifications, son jeu fait de variations, ou c'est pas la monotonie quand on la voit jouer.
Oui, et puis quand Julien Beneteau lui a posé la question comment elle va se préparer pour cette finale, elle dit non, laissez-moi profiter. Et là tout le stade l'a applaudi parce que oui, il faut qu'elle profite du moment, de ces 48 heures qui vont la rapprocher du plus grand moment de toute sa vie, de sa carrière, de tout, quoi, voilà.
Parce que Roland-Garros, tu parles du tennis féminin qui réserve beaucoup de surprises, mais Roland-Garros, ça vient rajouter une couche derrière. On en a eu des surprises. Alors, on se souvient de Podoroska qui va en demi-finale l'Argentine en 2020, mais elle n'avait pas atteint la finale, battue, je ne sais plus de mémoire par qui. Est-ce que c'est peut-être Iga Świątek dans l'un de ses quatre titres? Et la seule dans l'histoire à être sortie des qualifications et avoir remporté un grand chelem. Voilà, c'est pas une colle Sarah, le nom nous vient immédiatement.
Oui, c'est Emma Raducanu, la Britannique, qui effectivement a fait une épopée digne de Rawinska. Mais depuis...
Oui, c'est un peu flop.
Oui, depuis, effectivement, elle a jamais confirmé son exploit. On n'en est pas là, hein, mais c'est vrai que c'est... Enfin, il faut se rendre compte, 10 matchs, en 19 jours, puisque ça fera 19 jours, ça fait 3 semaines qu'elle est là. Enfin, c'est même pas un conte de fées, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, affaire à suivre, peut-être qu'elle écrira l'histoire, elle aussi, de Roland-Garros.
Et donc cette finale à suivre évidemment sur RMC samedi, entre Maya Rawalinska, la Polonaise, et Mira Andreeva. Ce vendredi, on aura évidemment les demi-finales messieurs, Arnaldi Coboli et Mensik Zverev. On en a déjà parlé dans le podcast d'avant, mais bon, c'est le premier match, c'est Mensik Zverev. Déjà, forcément avec le tableau. Tout le monde dit que c'est un peu la finale avant l'heure. C'est ce qui, voilà, quand on discute dans les couloirs du stade de Roland-Garros, on se dit que c'est l'affiche de la finale, elle est un peu là.
Totalement. Sacha Zverev, depuis le début du tournoi, enfin depuis la sortie de route de Sinner, depuis l'hécatombe des têtes de série, il semblerait qu'il ait coupé son téléphone, hein, parce que le statut de favori, il sait qu'il est là, mais on n'a pas besoin de lui répéter tous les jours. Il a fait un parcours très propre, Zverev. Il est allé chercher tous ses matchs, très agressif. Il sert extrêmement bien, son coup droit part bien. Il est, semble-t-il, il n'y a pas de pépin physique. Bonne manière, il a perdu aucun set. Hein.
Un seul,
oui. Il a perdu un set.
Face à un Français.
Exactement, face à Quentin Alice au troisième tour. Mais donc, il a géré ses matchs. Il aura face à lui un Mensik qu'il a en pleine bourre. Lui qui a passé des heures et des heures sur le court. Il a les armes, Zverev. On ne va pas se tromper. Il a les armes, véritablement. Ça joue tellement vite. C'est tellement puissant. Il est favori, mais il va falloir se méfier de ce Jakub Mensik de 21 ans qui lui aussi va jouer sa carte à fond. Mais c'est vrai que c'est la finale avant l'heure et c'est presque le vainqueur. En tout cas, le vainqueur, on a quand même le sentiment que c'est un de ces deux joueurs-là.
Mais à voir dans quel état, parce que Zverev a évidemment les armes techniques, elles sont supérieures, mais en 3 ou 4 sets, on l'a vu. Et face à un Mensik qui lâche rien, on a vu un match fantastique face à Fonseca, notamment le troisième set. Ainsi que le Tchèque, il a aussi beaucoup de ressources et il arrive aussi en confiance parce qu'il fait un très bon début de saison 2026.
Oui, il fait un très bon début de saison, mais encore une fois, les kilomètres et les heures passées, ça compte. Enfin, on ne peut pas tirer un trait sur les premiers tours. Et d'ailleurs, on dit que pour aller gagner un grand chelem, il faut s'économiser dans les premiers tours. Donc oui, j'entends qu'il a les armes, mais est-ce que ça va pas le rattraper un moment quand le match va se durcir, parce qu'il le sait, Zverev, qu'il va falloir écourter le match et que lui, il a la fraîcheur que n'a pas son adversaire. C'est une donnée qui existe.
Bon, si vous vouliez une nouvelle raison de qualifier ce Roland-Garros des Roland-Garros avec un accent italien. Victoire en double mixte de Sarah Errani et de Vavasori tout à l'heure. Je crois qu'il y a encore des hommes en double messieurs qui sont engagés. Plus personne en double dame, mais voilà, c'est vraiment le Forza Italia. Et peut-être que demain, ce court Philippe Châtrier aura des allures de Forum Italico.
Oui, l'autre demi-finale entre Arnaldi et Coboli, oui, c'est pas les Italiens que les Italiens attendaient, mais ça montre la pérennité d'un tennis italien qui est en bonne forme, et c'est surtout le nombre de joueurs qui sont compétitifs. Véritablement, l'Italie est au sommet. Ils ont gagné plusieurs fois la Coupe Davis. C'est réjouissant pour eux et frustrant pour nous.
Je regardais, c'est la nation qui, dans le top 30, a le plus de joueurs, tout simplement. Au top 40, ils sont 5. Sinner, Coboli, Musetti, Darderi, Arnaldi avec ça. Berrettini, lui, est...
Il va remonter.
Et 48e virtuellement. Oui, il y a les Américains, je crois qu'ils sont 7 dans le top 50, quasiment. Hein.
Ouais, mais je crois que dans le top 100, on est une des plus fortes nations, hein, en revanche. Hein.
On a du monde, mais entre 50 et 100.
Exactement, entre 50 et 100, on a pléthore de joueurs français. Il faudrait casser le plafond de verre du top 50 pour en placer quelques-uns.
Si je veux dire, j'ai le classement quasi live dans le top 100, actualisé, en tout cas virtuel, en prenant en compte ce tournoi de Roland-Garros. On a 12 joueurs dans le top 100, mais Bonzi 97, Van Hache 96, Mpechi 91, Alice 90, Caso 78, Royer 74, Atman 53, et puis allez, je les fais tous, Manarino 46, Moutet 36, Humbert 33, Rinderknecht 24 et Arthur Fils 21. Moïse Kouamé sera 216e mondial. Ça va vite monter pour Moïse, on ne se fait pas de soucis. Un mot quand même, puisqu'on parlait de Quentin Alice, il était en lice dès ce matin 11h sur le Suzanne Lenglen. Et avec Pierre Hugerbert, ils étaient en demi-finale du double messieurs. Ils ont perdu contre la future paire numéro 1 mondial, le Finlandais Eliovara et le grand gaucher britannique Patten, 6-3, 6-4. Bon, ils sont tombés sur plus fort, même si on va peut-être avoir ce regret, Sarah, que les moments clés, et notamment, ils ont 3 balles de break dans le deuxième set, et ils n'ont pas réussi à les convertir.
Oui, effectivement, ils ont fait un parcours fantastique, mais aujourd'hui, il y avait un cran au-dessus en termes de niveau de jeu, dans le sens où on sent que c'est des joueurs qui n'ont aucune, en tout cas aujourd'hui, aucune défaillance, que ce soit en service et surtout en retour. Mais quand le peu de fois où le point s'engage dans les diagonales, ils tenaient vraiment la cadence avec des joueurs de simple comme Quentin. C'était un match qui était quand même d'un niveau très élevé. Il manque peut-être encore un peu de coordination entre Quentin Alice et Pierre Hugerbert, parce que c'est que leur 6e tournoi tous les deux.
Premier grand chelem.
Et premier grand chelem, tout à fait. Donc ils sont peut-être encore un petit peu sur des rodages, mais en face, ouais, on avait une équipe qui a joué remarquablement. Et puis quand tu joues bien, comme par hasard, c'est toi qui prends les lignes ou qui prends les lettres. En tout cas, voilà, ça tourne la pièce, tombe souvent sur ceux qui sont les plus en réussite aussi. Donc, mais c'est de bel augure pour les prochains grands chelems. On ne sait pas encore s'ils vont jouer à Wimbledon.
Alors, ils nous l'ont dit tout à l'heure.
Bah, très bien, c'est confirmé. Je ne l'avais pas à l'heure du déjeuner avec eux, mais très bien. Et je pense que se profile aussi une nouvelle équipe de Coupe Davis.
Ça serait bien pour Quentin qui n'a jamais été appelé par... Il a été appelé ?
Oui, il a été appelé 2 fois déjà, mais il a pas joué. Et surtout, il était appelé en 5e. Là, a priori, ils sont en train de former une équipe de double solide.
Sachant que Paul-Henri Mathieu était sur le court, il y avait aussi Richard Gasquet, Luc Apouille, quelques anciens, un peu aussi un état-major fédéral était venu voir ce match sur le Suzanne Lenglen. D'ailleurs, on peut féliciter, près de 4000 spectateurs étaient venus dès 11h. On sait que remplir déjà le Lenglen tôt le matin, mais en plus pour du double. Alors certes, c'était une affiche franco-française, mais il y avait une très belle ambiance sur ce court Suzanne Lenglen.
Oui, et puis c'est sûr, comme on n'a plus de Français, il y avait encore des Français en fauteuil, en tournoi fauteuil, mais ni chez les juniors, ni dans les autres tableaux, il y a des Français. Donc effectivement, la tribune bleue était bien présente pour pousser derrière Quentin Alice et Pierre Hugerbert, mais ça n'a pas suffi. Alors,
en grattant, on arrive encore à trouver des Français. Tu as parlé du tennis fauteuil. On salue Xenia Chasteau, la jeune joueuse de tennis fauteuil qui est en demi-finale de son tournoi en simple. Elle a battu une Sud-Africaine 6-4, 6-4. Et puis, on a encore quelques chances. Alors, en tennis fauteuil, en double, Stéphane Houdet avec De La Puente, un des meilleurs mondiaux. Ils ont gagné par forfait face au Japonais Oda, qui est numéro 1 en simple tennis fauteuil, voilà, qui se préserve. Et on a nos petits Français Daniel Jade et Mathis Demain qui ont gagné leur double quart de finale. 3-6, 6-2, 10-7 au Super tie-break face à Azam et Brand, américain et israélien. Donc ils seront en demi-finale du double chez les garçons en junior. Donc voilà, on a encore quelques Français à voir. En cherchant, on trouve.
Oui, écoute, c'est une bonne nouvelle. Je n'avais pas vu ce résultat-là. Tant mieux pour eux. Je suis ravie qu'on puisse avoir encore un peu de Français dans le tableau, parce que jouer en double, que ce soit en junior ou dans les tableaux principaux, on travaille son tennis et on progresse aussi en jouant en double. Donc ça fait que du bien de gagner des matchs, que ce soit en simple. Certes, et c'est la carrière qu'on veut faire, mais le double est un formidable apprentissage.
Ce sont deux joueurs de la génération 2009, Daniel Jade et Mathis Domingue, qui se sont joués en finale à Carnac. Et ça avait été une... Daniel Jade qui a gagné face à Domingue. Et ça avait été une très belle partie. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de cours numéro 1. On se retrouve demain, vendredi, pour les demi-finales, messieurs. Merci Sarah, bonne soirée.
Bonne soirée à tous, ciao, ciao.
RMC, cours numéro 1.